et bon week-end.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
18h30, temps universel. Bonsoir à tous. Abdelrahman Dia en direct avec vous. Voici les titres de cette édition. Les autorités religieuses au Nigeria appellent au calme après la lapidation à mort d'une étudiante chrétienne par ses camarades musulmans dans le nord du pays. Les parlementaires somaliens élisent dimanche un nouveau président. Le scrutin qui se tiendra sous haute surveillance était attendu depuis un an. La Cisjordanie toujours sous tension après l'assassinat d'une journaliste. Israël dit ne pas connaître l'origine du tir qui l'a tué. Le Vatican annonce une visite du pape François au Canada suite au drame des pensionnats et la découverte de sépultures de milliers d'enfants. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. La police nigériane annonce l'arrestation de deux suspects en lien avec le meurtre d'une élève chrétienne accusée de blasphème contre l'islam. La jeune femme a été agressée par des élèves musulmans de son école de la ville de Sokoto qui l'ont tuée et ont brûlé son corps dans l'enceinte de l'établissement. Le point avec Gilbert Tamba à Abuja.
L'élève est accusé d'avoir insulté le prophète Mohammed, ce qui a entraîné sa mort jeudi. Son corps aurait également été brûlé par la suite dans les locaux de l'école. Le gouverneur de l'état de Sokoto, Aminu Tambuwal, a ordonné la fermeture du collège Shehu Shagari, où l'incident s'est produit pour une durée indéterminée, et a annoncé l'ouverture d'une enquête. Le plus haut chef religieux musulman du pays, le sultan de Sokoto Saad Abubakar, a qualifié cette violence d'injustifiée et a appelé les autorités à traduire les auteurs en justice tout en appelant au calme. La militante populaire des droits de l'homme Aïcha Yesufu, elle-même musulmane, a également condamné l'acte. Des cas d'attaque de foule en raison de blasphèmes présumés se produisent par intermittence au Nigeria, en particulier dans le nord. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Le président congolais Félix Tshisekedi a dénoncé des complicités entre des officiers et le groupe CODECO, armée coopérative pour le développement du Congo, responsable des derniers massacres en Ituri. Il juge la situation inacceptable. Le chef de l'État s'exprimait devant des dizaines d'officiers de l'armée et de la police à l'ouverture d'un séminaire sur l'éthique et la déontologie militaire, 5 jours après le massacre d'au moins une cinquantaine de civils dans le territoire de Djougou en Ituri. Au Cameroun, le ministre des Transports a confirmé sur le site du crash d'un avion mercredi la mort de ses 11 passagers. Les deux boîtes noires ont été récupérées et elles permettront d'élucider les circonstances de cet accident, a déclaré Jean-Ernest Ngalé Bibéé. L'avion transportait des employés de la compagnie Kotko et de compagnie prestataire de service de Yaoundé à une station de pompage liée au pipeline à Domta dans le nord-est. Les parlementaires somaliens élisent dimanche un nouveau président au cours d'un scrutin attendu depuis plus d'un an. Il se tiendra sous haute sécurité dans un hangar de l'aéroport de Mogadiscio avec un nombre record de 39 candidats. Le point avec Nani Talani.
Le chef de l'État sortant, Mohamed Abdoulaye Mohamed, dit Farmajo, est candidat à sa réélection, ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a pu réaliser. Deux anciens présidents, Hassan Cheikh Mohamoud et Sharif Cheikh Ahmed, seront parmi ses concurrents, ainsi que son ancien premier ministre Hassan Ali Kaïré. Sur les 39 candidats, il y a aussi le président de la région de Puntland, Saïd Abdoulaye Dani, et une seule femme, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Fawzia Oussouf Adan. Pour être élu, un candidat devra rassembler au moins 2/3 des voix des députés et sénateurs. Si aucun ne réunit ce total au premier tour, un deuxième est organisé entre les 4 candidats arrivés en tête. Si aucun d'entre eux ne parvient à être élu, un nouveau tour de scrutin est organisé entre les 2 candidats ayant rassemblé le plus de voix au deuxième tour. Cette élection doit signer la fin de plus d'un an de crise politique.
Arrestation aux Pays-Bas d'un ex-officier de l'armée rwandaise soupçonné de génocide, notamment pour son rôle dans le massacre de dizaines de milliers de Tutsis à Mugina, dans le centre du Rwanda, en 1994. Selon les autorités néerlandaises, ce Rwandais de 65 ans était officier de gendarmerie au Rwanda en 1994, sans plus de détails sur son identité. Les autorités rwandaises, elles, qui ont demandé son extradition, estime que le suspect a joué un rôle déterminant dans des massacres dans la capitale Kigali et dans la municipalité de Mugina. Il vivait aux Pays-Bas depuis 1998. La Mauritanie a fait des progrès dans la lutte contre l'esclavage, notamment grâce à des efforts du gouvernement, mais cette pratique persiste dans le pays, a souligné ce vendredi à Nouakchott le rapporteur spécial de l'ONU sur les formes modernes d'esclavage. Tomoya Obokata, rapporteur spécial de l'ONU sur les formes d'esclavage, a bouclé ce vendredi une mission de 2 semaines en Mauritanie où cette pratique existe toujours selon des ONG, malgré son interdiction officielle. L'esclavage est assimilé à un crime contre l'humanité dans la constitution mauritanienne.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan n'est pas favorable à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, risquant de bloquer l'ensemble du processus qui requiert l'unanimité des membres de l'Alliance Atlantique. « Nous n'avons pas un avis positif », a déclaré Erdogan, expliquant qu'il ne veut pas voir se répéter la même erreur que celle commise lors de l'adhésion de la Grèce. Le G7 a affiché son unité ce vendredi pour soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire. Le Royaume-Uni a demandé ce vendredi donc plus d'armes pour l'Ukraine et de nouvelles sanctions contre la Russie, alors que la France a assuré à Kiev le soutien du G7 jusqu'à la victoire à l'occasion d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe des 7 dans le nord de l'Allemagne. L'armée israélienne a indiqué qu'il n'était pas possible de déterminer dans l'immédiat l'origine du tir qui a tué la journaliste palestino-américaine Shirin Abu Akleh lors d'un raid israélien en Cisjordanie. À Jérusalem, il y a eu des scènes de violence à la sortie du cercueil de la journaliste assassinée. Les précisions de John Linton.
La conclusion du rapport préliminaire est qu'il n'est pas possible de déterminer la source du tir qui a tué la reporter dans le camp des réfugiés de Jenin, a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué. L'enquête montre qu'il y a 2 possibilités. La première option est celle d'un tir nourri d'hommes armés palestiniens. L'autre option est que pendant la fusillade, l'un des soldats israéliens a tiré vers un terroriste, indique l'armée, disant qu'il est possible que la journaliste qui se tenait près du terroriste ait été touchée. Des violences ont éclaté ce vendredi dans l'enceinte de l'hôpital Saint-Joseph de Jérusalem à la sortie du cercueil de la journaliste palestinienne lorsque la police israélienne a dispersé une foule brandissant des drapeaux palestiniens.
Les Émirats arabes unis sont en deuil. Leur président, Cheikh Khalifa, est décédé ce vendredi à l'âge de 73 ans. Le président américain Joe Biden a salué la mémoire du président des Émirats arabes unis, un vrai partenaire et ami des États-Unis selon lui. Le pape François se rendra à la fin du mois de juillet au Canada où il devrait renouveler ses excuses pour les violences perpétrées pendant des décennies dans des pensionnats pour autochtones administrés par l'Église. Le point avec Michel Joseph.
Le souverain pontife va accomplir un voyage apostolique au Canada du 24 au 30 juillet prochain, visitant les villes d'Edmonton, Québec et Iqaluit, a annoncé Matteo Bruni, directeur du service de presse du Saint-Siège. Le mois dernier, il avait présenté ses excuses lors d'une audience au Vatican devant des délégations amérindiennes et des évêques canadiens. Ces excuses ont été saluées par le Premier ministre Justin Trudeau comme une étape importante, tout en estimant qu'il restait encore du chemin pour redresser des torts historiques. La découverte de centaines de sépultures d'enfants anonymes ces derniers mois a secoué le Canada. Plus de 1300 tombes d'enfants anonymes ont été retrouvées sur les sites d'anciens pensionnats gérés par l'Église catholique et les recherches se poursuivent à travers le pays. Avant ce voyage, le 38e à l'étranger depuis son élection en 2013, le pape François, 85 ans, se rendra début juillet en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud.
Et puis le milliardaire Elon Musk envoie des signaux contradictoires sur son projet de rachat de Twitter, mais il a dit qu'il dit être rassuré qu'il est toujours engagé à mener à bien la transaction. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, c'est dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Mouamadou Oumfa.
En Guinée-Bissau, le président Oumarou Sissoko Embalo a limogé jeudi le ministre de l'économie et confié provisoirement son poste au chef du gouvernement. Il a été remplacé pour garantir le fonctionnement régulier des institutions et par convenance politique, indique un décret présidentiel. M. Victor Mandiga avait récemment dénoncé l'implication, selon lui, du ministère des Finances dans des dossiers relevant de son attribution. Au Niger, des ONG ont déposé une plainte au parquet de Niamey après la révélation par la Cour des comptes de malversations dans des services publics atteignant 63 milliards de francs CFA. Le 19 avril dernier, la Cour des comptes avait remis son rapport 2021 au président Mohamed Bazoum, dans laquelle elle révèle, entre autres, des surfacturations, l'absence de pièces justificatives pour les achats de matériel ou la construction d'infrastructures, l'octroi d'avantages indus à des responsables. Ici aux États-Unis, la pénurie de lait en poudre pour bébé pourrait durer un certain temps, a laissé entendre vendredi le conseiller économique de la Maison-Blanche sans donner un délai. Selon le fournisseur de données DataAssembly, le taux de rupture de stock a atteint 43% à la fin de la semaine dernière. Initialement causé par des problèmes sur la chaîne d'approvisionnement et un manque de main-d'œuvre, la pénurie a été aggravée en février quand une usine du fabricant Abbott a fermé après un rappel de produits soupçonnés d'avoir provoqué la mort de deux bébés.
À présent, la page des sports avec Nanit Talanik. Bonsoir.
Bonsoir Abdou, bonsoir à tous.
Alors on commence par du football et ses matchs retour des demi-finales de la Ligue des champions de la CAF.
Oui, dès ce soir, la rencontre entre le Wydad Casablanca et Petro de Luanda au stade Mohamed V au Maroc. Les hôtes, Wydad, se dirigent vers le match retour avec un avantage de 2 buts après avoir remporté une victoire 3-1 au match aller. Ils sont presque sûrs de se réserver une place en finale pour la première fois depuis la campagne 2018-2019. L'équipe visiteuse, Petro, n'a pas encore atteint la finale de la compétition et devra marquer 3 buts à l'extérieur pour y parvenir pour la première fois de son histoire. Wydad Casablanca et le Petro de Luanda se sont affrontés 7 fois dans toutes les compétitions. Ce sera leur 4e rencontre cette saison.
Football toujours, cette fois-ci en Angleterre.
Chelsea et Liverpool s'affrontent demain samedi à Wembley en finale de la FA Cup, la Coupe d'Angleterre. Liverpool cherchera à maintenir sa pression pour devenir la première équipe anglaise à remporter les 4 trophées majeurs en une saison contre une équipe de Chelsea qui espère accueillir le nouveau propriétaire Todd Boehly avec une victoire. Les hommes de Jürgen Klopp ont aussi atteint la finale de la Ligue des Champions où ils affronteront le Real le 28 mai.
Des clubs russes suspendus par l'UEFA demandent de justice.
4 clubs russes de foot annoncent avoir déposé un recours auprès du TAS, le tribunal arbitral du sport, contre leur exclusion des compétitions européennes en 2022-2023, décidée par l'UEFA à cause du conflit en Ukraine. Notre club, ainsi que 3 autres clubs de la première ligue russe, Zenit Saint-Pétersbourg, Dynamo Moscou et Sochi ont fait appel devant le tribunal arbitral du sport à Lausanne de la décision de l'UEFA prise le 2 mai 2022 de bannir les clubs russes des compétitions européennes. Tous les clubs ont demandé que leur plainte soit examinée en urgence, indique le club de football professionnel russe, le CSKA Moscou, dans un communiqué ce vendredi. Il précise qu'il aspire aussi à participer aux compétitions européennes.
Et enfin, en basket, qualification de Miami pour la finale de la Conférence Est.
Le Heat de Jimmy Butler s'est qualifié pour la finale de la Conférence Est grâce à sa victoire 99-90 à Philadelphie. Les Floridiens, finalistes du championnat en 2020, battus par les Lakers, ont remporté leur série 4-2, faisant ainsi respecter leur statut de tête de série numéro 1 face à des Sixers, numéro 4, qui, comme eux, ne visait pourtant rien d'autre que le titre. À l'ouest, les Mavericks et Luka, irrésistibles, eux, ont atteint les Suns au 7e match décisif après leur succès autoritaire à domicile, 113 à 86.
Merci Nanit.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. La Banque des États d'Afrique centrale, BEAC, dont le siège est au Cameroun, demande instamment à la République centrafricaine d'annuler une loi adoptée fin avril faisant de la crypto-monnaie Bitcoin une monnaie légale. Dans une lettre rendue publique la semaine dernière, la banque a prévenu que cette mesure est contraire à ses règles et peut affecter la stabilité monétaire dans la région. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Yaoundé et c'est un récit de Lionel Gaïma.
La Banque des États-Unis de l'Afrique centrale, BAC, estime que la décision de Bangui de donner cours légal au Bitcoin pourrait concurrencer le franc CFA, la monnaie de la région arrimée à l'euro par une garantie du trésor français. Selon une lettre du gouverneur de la banque au ministre centrafricain de Finances, cette décision suggère que Bangui souhaite disposer d'une monnaie échappant au contrôle de la banque centrale. La lettre de la banque régionale suggère, par ailleurs, que l'utilisation de la crypto-monnaie pourrait perturber la stabilité monétaire dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le CEMAC, dont les 6 pays membres, à savoir la Centrafrique, le Cameroun, le Tchad, le Gabon, la Guinée équatoriale et la République du Congo-Brazzaville utilisent le franc CFA comme monnaie commune. La banque exhorte Bangui à se conformer aux dispositions de la CEMAC et éviter les politiques susceptibles d'entraîner des fluctuations monétaires. Les économistes notent toutefois que les crypto-monnaies sont de plus en plus populaires et difficiles à contrôler. Willy Delors-Hubo, économiste de Financial Capital, souligne que les transactions en Bitcoin ont quadruplé dans la région ces 3 dernières années.
La décision de la République centrafricaine est une violation du pacte communautaire de l'Union monétaire de l'Afrique centrale et la réaction de la Banque centrale ne peut aller que dans le sens d'une sanction. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, le franc CFA et la crypto-monnaie coexistent déjà. À partir du moment où deux opérateurs qui contractent sont d'accord, tant que celui qui doit être payé accepte d'être payé en crypto-monnaie, vous ne pouvez pas arrêter les opérations de crypto-monnaie. Et je ne vous cache rien si je vous dis qu'au cours des 5 et 6 dernières années, le volume des opérations en crypto-monnaie s'est multiplié par 4. Il y a des opérations qui sont faites dans notre espace monétaire.
La BEAC s'inquiète également du fait que les crypto-monnaies pourraient permettre à des criminels de blanchir plus facilement de l'argent et parrainer le terrorisme ou les rébellions. La République centrafricaine est assaillie depuis 2013 par des multiples groupes rebelles. Le Cameroun se bat contre les séparatistes anglophones et le Tchad fait face à des rebelles armés. La semaine dernière, le syndicat patronal du Cameroun a déclaré que les groupes armés des pays de l'Afrique centrale utilisent le Bitcoin pour dissimuler leurs transactions financières. Selon le syndicat patronal, le Cameroun a déclaré en 2021 des transactions en Bitcoins d'un montant de 260 millions de dollars, dont 40% à destination des séparatistes des régions anglophones. La BEAC estime qu'au lieu d'adopter le Bitcoin, Bangui devrait mettre en œuvre les politiques monétaires de la CEMAC pour réduire une pauvreté endémique. David Koundé, économiste et consultant de la CEMAC, affirme que si les autorités centrafricaines n'annulent pas la loi sur le Bitcoin, la banque pourrait prendre des sanctions.
La BEAC peut suspendre les paiements internationaux. Vous savez que l'un des mécanismes de fonctionnement de la zone franc, c'est l'existence de ce compte d'opération où sont centralisées, n'est-ce pas, nos devises à hauteur de 50% et les 50 autres sont répartis dans d'autres devises. Et donc, ça signifie que lorsque la République centrafricaine veut faire des achats à l'étranger, les autorités ont recours à la Banque centrale qui devrait mettre à leur disposition, n'est-ce pas, les devises nécessaires pour faire leurs opérations. Donc, le gouverneur peut sursoir au paiement des pays comme la République centrafricaine. Donc, la matérialisation de cette décision décision me semble extrêmement difficile.
Jusque-là, la BEAC a refusé de répondre aux questions des journalistes sur les pressions qu'elle pourrait exercer pour amener Bangui à annuler sa loi sur le Bitcoin. Le franc CFA a été rattaché au franc français après la Seconde Guerre mondiale en 1948. Au départ, c'était une contribution des colonies françaises d'Afrique à la reconstruction de la France. Depuis les indépendances, les pays utilisant le franc CFA doivent verser la moitié de leurs réserves financières au trésor français en échange d'une garantie de convertibilité. Le franc CFA est rattaché à l'euro en 1999 à raison d'environ 660 francs CFA pour 1 euro.
L'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo a alerté hier sur une probable attaque terroriste dans la ville de Goma. Selon cette correspondance adressée aux citoyens américains vivant à Goma pour qu'ils prennent des précautions, l'attaque pourrait se produire dans un bateau en partance de Goma sur les eaux du lac Kivu. Depuis lors, les habitants réagissent différemment. Le reportage de notre correspondant sur place, Zanem Netizaidi.
Depuis cette alerte de l'ambassade des États-Unis, c'est la panique des habitants de Goma. Justin Bendera, conducteur de taxi-moto.
La situation sécuritaire reste volatile ici. Et si l'ennemi décidait d'attaquer Goma aujourd'hui, je ne vois aucun habitant qui peut échapper. Nous n'avons pas la sécurité et par conséquent, nous nous retrouvons tous sous le contrôle de l'ennemi.
L'alerte de l'ambassade américaine précise que l'attaque pourrait se produire sur un bateau sur les eaux du lac Kivu. Depuis cette alerte, aucune mesure exceptionnelle n'est observée au port public de Goma, déplore François Mouguichot, un capitaine des bateaux.
Messieurs les journalistes, comme vous nous voyez ici, nous sommes là, il n'y a pas l'inquiétude, il y a les activités socio-commerciales, les activités sur les zones du lac Kivu comme l'habitude. Il y a eu des informations de l'ambassade des États-Unis qu'il y aura une probable attaque d'un bateau, on ne sait pas si c'est quel bateau, mais comme vous voyez, il n'y a pas même déploiement de la police ici au niveau du port de Goma. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de soucis, c'est comme toujours, c'est comme l'habitude.
Certains activistes des droits humains critiquent l'attitude des États-Unis face à la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Pour Jacques Sinzaera, les diplomates américains ne devraient pas se contenter à lancer des alertes, mais collaborer avec les gouvernements congolais pour éviter les pires.
L'alerte lancée par les États-Unis vient s'ajouter sur ce que nous décrions sur l'échec de l'état de siège. Et aussi, c'est une frustration de notre part. Comment l'ambassade qui connaît ces terroristes-là se limite à alerter sur les réseaux sociaux au lieu de collaborer avec les services de sécurité congolais pour permettre à déjouer cette attaque en fait que cela ne se produise.
La société civile, quant à elle, demande aux habitants de garder leur calme et aux services de sécurité de travailler davantage. Marion Gavo est le président de cette structure citoyenne.
Nous demandons à toute la population de rester calme, de ne pas paniquer, de ne pas toucher n'importe quel engin qu'il trouve. Mais nous demandons aussi à l'autorité urbaine et provinciale de renforcer la sécurité dans le lieu public en organisant par exemple des contrôles avec les détecteurs de métaux.
Après l'alerte de la diplomatie américaine, le commandant de la police nationale à Goma a rassuré les habitants de la mise en alerte de toutes les unités de police, et c'est là depuis que la province a été mise sous état de siège. Zanem Netizaidi à Goma pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Le Zimbabwe et le HCR pilotent un projet pour éviter la déforestation et bénéficier de la gestion des déchets dans le camp de Tongogara, près de la frontière orientale avec le Mozambique. Ce camp de réfugiés a installé des machines afin de transformer les déchets animaux en engrais et en biogaz qui peut être utilisé comme combustible pour la cuisine. Reportage de Columbus Mavunga depuis Chipinge au Zimbabwe, et c'est un récit de Nanit Talani.
Dominique Katumbayi, l'un des réfugiés du camp de réfugiés de Tongogara, utilise désormais des engrais organiques provenant de déchets animaux pour ses plantes.
Avant, c'était un problème car l'engrais s'achète, mais celui-ci est gratuit. Chaque jour, je peux produire plus de 300 litres d'engrais. Maintenant, c'est facile, tout le monde peut venir le chercher et le mettre dans son jardin.
L'engrais est un sous-produit des déchets animaux après avoir fermenté dans des cuves utilisées dans le processus de production du biogaz. Le biogaz est gratuit et certains réfugiés l'utilisent pour faire la cuisine. Francine Kalumba, comme Katumbayi, est une réfugiée originaire de la République démocratique du Congo.
Nous utilisons du biogaz car il a l'avantage de ne pas produire de fumée. Si vous mettez du poêle sur le biogaz, il reste propre.
L'unité eau, assainissement et hygiène du ACR au Zimbabwe affirme avoir lancé le projet après avoir constaté que les réfugiés ont du mal à se débarrasser des déchets animaux. Yuhei Honda est officier associé à ce programme eau, assainissement et hygiène du ACR.
Nous pensons maintenant à le gérer de manière appropriée. Puis, nous avons eu une idée du biogaz de la porcherie dans le cadre de la gestion des déchets animaux. Et cette année, nous avons commencé avec un projet pilote de ce système de biogaz.
Le gouvernement espère obtenir davantage de fonds pour étendre le projet à tout le camp de réfugiés qui compte environ 20 000 personnes.
Johan Langa est administrateur du camp de réfugiés de Tungogara.
Le projet de biogaz est une initiative économique destinée à garantir que les réfugiés obtiennent une énergie propre. Les réfugiés sont intégrés dans la manière moderne d'avoir du carburant ou de l'énergie verte. Donc pour nous, c'est un coup de pouce pour la population.
Harare soutient que le projet va contribuer à réduire la déforestation près du camp de Tungogara. Selon les responsables, le Zimbabwe perd 330 000 hectares de forêt par an, en partie à cause de la déforestation à des fins énergétiques.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden accueille les dirigeants d'Asie du Sud-Est à Washington pour un sommet extraordinaire de deux jours qui se termine ce vendredi. L'objectif de Washington est de renforcer les alliances avec ses partenaires asiatiques pour contrer l'influence chinoise. Le commerce, la sécurité régionale et l'Ukraine sont à l'ordre du jour, mais les activistes exhortent les chefs d'État à inscrire à leurs préoccupations les droits humains, les questions de démocratie, notamment le coup d'État de 2021 au Myanmar. Reportage de Patsy Widakuswara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche. Le récit est de Mamadou Mfoua.
Les activistes craignent que l'invitation par l'administration Biden de certains leaders de l'ASEAN n'envoie le message qu'elle tolère les violations des droits de l'homme. Ils pointent du doigt, entre autres, le premier ministre cambodgien Hun Sen, qui assure la présidence tournante de l'ASEAN et dont le règne de 37 ans est marqué par la corruption, la répression et la violence. Sarah Jäger, directrice de Human Rights Watch.
L'une des images les plus marquantes de ce sommet États-Unis-ASEAN sera celle du président Biden aux côtés de violeurs des droits de l'homme d'Asie. Maintenant, il peut atténuer un peu cela en dénonçant ces violations des droits de l'homme au Cambodge et ailleurs, au Vietnam. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vu ce genre de message très clair de la part de la Maison-Blanche.
9 des 10 chefs de délégation de l'ASEAN ont assisté au dîner organisé par le président Joe Biden jeudi soir. Suite à la demande de l'ASEAN de n'envoyer que des représentants non politiques, la junte birmane qui a renversé le gouvernement Aung San Suu Kyi n'a envoyé personne. Les États-Unis soutiennent l'initiative de l'ASEAN d'ouvrir des canaux informels de discussion avec le gouvernement d'unité nationale du Myanmar en exil. Zing Ma Aung, ministre des Affaires étrangères du Myanmar.
C'est une bonne occasion pour moi de rencontrer le dirigeant du département d'État et des États-Unis. En même temps, bien sûr, les dirigeants de l'ASEAN qui sont en visite. Il y a beaucoup de réunions formelles et informelles. C'est donc une chance pour moi d'être ici.
Le sommet traduit le dilemme auquel le président Biden est confronté alors qu'il cherche un équilibre entre l'accent mis par son administration sur les droits de l'homme et la démocratie et l'ambition de l'Amérique de contrer l'influence chinoise dans l'Indo-Pacifique ainsi que la mise en place d'une coalition contre l'invasion russe de l'Ukraine. Yen Psaki, du service de presse de la Maison-Blanche.
Un certain nombre de participants membres de l'ASEAN ont été des partenaires importants en s'opposant à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et en soutenant les sanctions et bien sûr en les respectant.
Cependant, elle n'a pas révélé si le communiqué final du sommet va condamner la Russie, ce que l'ASEAN a jusqu'à présent évité de faire.
C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de production pour la mise en onde de ce journal. La présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voaafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.